Maurice Renard, 30 ans après. En mai 1928, l'inspecteur divisionnaire Jérôme fut appelé à X, ville importante de l'Est, pour un supplément d'enquête concernant un meurtre dont je n'ai rien à dire ici. L'inspecteur m'en empêcha, selon son habitude. Et il advint qu'en cette occasion, j'eus l'honneur de déjeuner avec lui chez maître Jean-Jacques Venturel, avoué de la partie civile. Maître Jean-Jacques Venturel connaissait la réputation si justifiée de mon chef. Et au cours d'une conversation dans la salle des pas perdus, il avait dit assez soudainement: vous avez dû entendre parler de la mort de mon oncle Félix Venturel, qui fut également mon prédécesseur. Oh, cela remonte à 1898. Oui, avait répondu Jérôme. Maître Félix Venturel fut assassiné une nuit, pendant qu'il travaillait à son bureau. Les fenêtres et les portes étaient fermées. On n'a jamais su par où l'assassin était entré, par où il était sorti, et qui était cet assassin. Il y a 30 ans, mon cher maître, je ne songeais pas encore à rentrer dans la police, mais je me rappelle très bien le retentissement de l'affaire. Et depuis, j'en ai pris connaissance pour mon édification personnelle, car cela, c'est de l'histoire. Vous êtes-vous fait une opinion? Ben, autant qu'il est en mon pouvoir, autant qu'il m'en souvienne, je me suis livré alors à quelques hypothèses, mais sans pour bien tarder, parce que ceci remonte à cette affaire est classée. Elle n'avait pour moi qu'un intérêt historique et rétrospectif, parce que, aussi, je ne pouvais raisonner que sur des rapports et des procès-verbaux. Vous plairait-il de venir à la maison? Je vous montrerai l'endroit. Faites-moi le plaisir d'accepter à déjeuner ainsi que votre secrétaire. Nous avions accepté, comme bien l'on pense. La salle à manger de M. Jean-Jacques Venturel donnait par deux fenêtres sur un jardin. En y entrant, nous eûmes ces deux fenêtres à notre gauche et devant nous une grande muraille garnie de belles boiseries du XVIIIe siècle et comprenant deux placards à deux battants, situés de part et d'autre d'une cheminée, Louis XVI, avec miroir ancien et trumeau. À droite, boiseries encore, et une autre porte basse. Trois couverts étaient mis avec luxe sous une magnifique suspension de cuivre ciselé. Maître Jean-Jacques Venturel était veuf et vivait seul. Si j'ai décrit, comme on vient de le voir, la salle à manger, c'est que cette pièce n'était autre que l'ancien cabinet de travail de feu de M. Félix Venturel qui avait trouvé la mort. Son neveu et successeur nous en informa comme dépliant nos serviettes. « Ma chère femme et moi, dit-il, nous avons complètement transformé les usages de cette vieille maison. Autrefois, du temps de mon oncle, cette partie basse communiquait avec un vestibule qui est devenu la cuisine. Et cette grande porte à double éventail ouvrit sur l'étude qui est maintenant installée dans l'autre aile. Et bien entendu, dit Jérôme, il ne reste rien ici de ce qui s'y trouvait en 1898. En tant que meuble, non. Mais nous n'avons pas touché aux ouvertures. Ces deux portes, ces deux fenêtres, étaient il y a 30 ans telles que vous les voyez aujourd'hui. On les a peintes autrement, voilà tout. Et c'est l'essentiel aux yeux de qui veut étudier la mort de mon oncle. Puisque le problème principal est celui-ci. Par où l'assassin est-il entré et sorti? Ma tante couchait dans la chambre voisine de celle qui est au-dessus. Elle lisait au lit lorsque, vers minuit, elle entendit deux détonations successives, très rapprochées et provenant du cabinet de mon oncle. Elle descendit précipitamment, mais mon oncle avait coutume de s'enfermer pour pouvoir travailler tranquille la nuit. Les deux portes résistèrent. Il fallut les enfoncer. Oui, la clé de chambre était en dedans. Et elle aurait donc été fermée de l'intérieur du cabinet, comme on l'avait prévu. Quant aux fenêtres, closes, hermétiquement closes devant les volets solidement verrouillés, et la cheminée, cachée alors par une bouchée par une tôle qui traversait le tuyau d'un poêle de faïence, et trop étroite de caissons. D'ailleurs, pour qu'un enfant, même petit, s'y glissât, les placards, comblé de dossiers, les murs, épais, impénétrables, couverts à cette époque du haut en bas par des rayonnages chargés de cartons, de papier, d'archives. Enfin, cette chambre constituait un véritable vase clos. Et cependant, mon oncle y avait succombé, assis à son bureau, le front troué d'une balle de revolver qu'on retrouva à l'autopsie. Une seule balle, dit Jérôme, rappelant ses souvenirs. Et votre tante avait cependant perçu deux détonations. Oui, mais pour essayer d'y réfléchir, elle vint admettre que la deuxième, moins forte peut-être que la première, pouvait bien être une sorte d'écho de celui-là, ou bien encore le claquement d'une porte. Mais l'expérience que l'on fit réduisit à néant la conjecture de l'écho. Il était inexplicable que l'une des portes ait pu craquer, toutes deux étant fermées à clé. Et le coup de revolver avait été tiré de près, n'est-ce pas? Demanda Jérôme. Quant à l'arme du crime, le criminel l'avait emporté avec lui dans sa fuite diabolique. Oui, exact. Et en l'absence d'indices concrets, l'instruction dut travailler dans le domaine de la logique et de la psychologie. On se demanda qui avait un intérêt quelconque à la mort de mon oncle. On songea même au suicide. Mais cet homme froid, simple et juste ne se connaissait pas d'ennemis. Rien n'avait été volé à la faveur du meurtre. Son étude était la plus importante, la plus cotée de l'arrondissement. Aucune plainte ne fut déposée contre lui par la suite. Enfin, puisque l'assassin n'était ni entré ni sorti, c'est qu'il n'y avait pas d'assassin. Et puisque l'arme avait disparu après avoir causé une mort foudroyante, parler de suicide était une ineptie. Mais votre oncle pouvait-il avoir des ennemis intimes? Questionna Jérôme pendant une éclipse du domestique qui nous servait. Aucun. Même il s'était montré les plus gais à mes noces qui venaient d'avoir lieu. J'avais épousé une cousine peu auparavant. Sa fille. Non, non, la fille de ma tante, celle qu'elle avait eue d'un premier mariage. Des plus gais, dites-vous, mais vous le désignez tout à l'heure comme un homme froid. C'est vrai, mais il avait été très gai ce soir-là. Plusieurs témoins ont déposé à l'instruction. Oh, je ne l'avais pas oublié, dit Jérôme. Ah, vous aussi, murmura maître Jean-Jacques Venturel un peu pâle. Vous aussi. Mais voyons, puisque le suicide est impossible, je suppose, fit Jérôme, que feu maître Félix Venturel n'était pas maladroit de ses mains, qu'il maniait parfois le marteau, la tenaille et le tournevis. Certes, possédait-il un revolver? Oh, il avait perdu le seul qu'il posséda. Quand? Je ne sais pas. Il me l'avait dit au début de mes fiançailles. Quel calibre? On ne l'a jamais su. Lui-même, sans doute, ne s'en est jamais soucié. Vous m'avez indiqué qu'en 1898, des rayonnages couvraient ces murs jusqu'au plafond. Comment votre oncle s'y prenait-il pour accéder aux rayons les plus élevés? On utilisait un petit escalier de bibliothèque monté sur roulette. À l'époque, pas de suspension ici. Non, non, une lampe électrique portative posée sur le bureau. Et ce bureau, à la place où se trouve la table que nous entourons? Oui, c'est cela. Je suis assis en ce moment où s'asseyait mon oncle. Cette suspension est très lourde, prononça Jérôme rêveusement. Il en avait prévu l'éventualité. Son ouvrage résistant, le domestique rentra. Jérôme, laissait haletant, attendit qu'il fût parti, redisparu, puis le revolver est là-haut, dit-il, en désignant au plafond le centre de la rosace qui formait un pendentif, terminé par le gros piton pendait la suspension. Un système de ressort ou de caoutchouc à faire remonter l'arme avec le pendentif détaché, que la force de rappel a clafeté la nuit intérieurement sur des crochets d'alors inaccessibles. C'est ça le bruit, le choc qui a fait croire à une deuxième détonation. L'après-midi, par le plancher de la chambre supérieure, dont nous levâmes quelques lambourdes, nous découvrîmes le revolver de Maître Félix Venturel, logé dans le centre de la rosace et attaché à de puissants élastiques que le temps avait desséchés. Cette chambre était la chambre de notre hôte. On y voyait le portrait de la charmante femme qu'il avait perdue en sa jeunesse, et dont les beaux grands yeux semblèrent approuver Jérôme lorsque Maître Jean-Jacques Vinturel, tout désemparé, lui ayant demandé ce qu'il convenait qu'il fît auprès de la justice, mon chef répondit fermement: « Ben, ce que je ferai moi-même, rien !»